sur le cheval de...
Et non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur Radio Libertaire et c'est bien Jazz Libre, il n'y a aucun souci. Vous ne rêvez pas. Voilà, nous sommes en direct des studios, numéro du studio justement 01 43 71 89 40, Yves au micro. Vous pouvez télécharger la souscription, vous connaissez le principe, voilà, vous consultez ma page Facebook Yves Jazz Libre, où je mets tout un tas d'informations qui peuvent vous intéresser sur l'émission, des vidéos que je trouve, comme d'habitude. Alors non, vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu les Rolling Stones, il s'agit bien d'un pot pourri, d'une compilation des gros tubes, j'ai pas tout mis, c'était un peu difficile, donc voilà, en guise de générique, tout simplement parce que ce soir nous rendons hommage au batteur Charlie Watts, qui donc a été... jusqu'au 24 août, pardon, le batteur attitré des Rolling Stones, d'où évidemment ce générique. Alors, pourquoi cet hommage à Charlie Watts ce soir ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait une face cachée chez Charlie qui était son amour pour le jazz. Et il l'a toujours avoué, dès qu'il pouvait, il allait écouter tous ses idoles lorsqu'il partait aux États-Unis. Et ses idoles, c'était Art Blakey, Jacques Dodgenet, Roy Haynes, tous ces grands batteurs qui ont fait le renom du jazz, dont je vous rebats les oreilles depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, Charlie Watts, en tant qu'amoureux, a mis beaucoup de temps à assumer son fantasme de batteur de jazz. Et il a commencé à le faire dans les années 80 seulement. Et puis aussi parce que c'est un homme très très modeste, très très discret, très élégant, très anglais. Et il a jamais, comment dire, il s'est toujours considéré, même d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des interviews de Charlie Watts, lorsqu'on lui dit « alors qu'est-ce que vous pensez ?», il dit « oh, moi j'aime bien, mais bon, je ne suis pas sûr d'apporter grand-chose au son du groupe des Rolling Stones ». Donc voilà. Donc une grande fidélité. Malheureusement, Mick Jagger et Keith Richards voulaient fêter leurs 60 ans de carrière ensemble. Et Charlie Watts a donc eu la mauvaise idée de nous quitter le 24 août dernier, ce qui est dommage parce qu'en fait, il avait eu un cancer de la gorge et a priori, c'était remis. Il y avait une rémission de sa maladie, et puis visiblement ça s'est empiré, et donc il est mort auprès des siens calmement et paisiblement, comme il est dit. Donc il était né le 2 juin 1941. Il est, alors c'est curieux parce que hormis l'instrument que nous n'avons pas en commun, mais il a fait une école d'art graphique et il était graphiste comme je le fus également. Je dis je le fus parce que je suis à la retraite. Et donc dès le début, il s'intéresse à, dès le plus jeune âge, il s'intéresse à la batterie. Il va jouer dans des groupes, notamment le groupe Blues Incorporated. Et il va commencer à jouer de la batterie dans les clubs de rhythm and blues. Et c'est là où il va rencontrer Brian Jones, Mick Jagger et Keith Richards en juin 63. Ils vont quitter le Blues Incorporated pour former les Rolling Stones. Alors, il est né en fait dans l'hôpital du collège de l'université de Bloomsbury, à Londres, d'un père qui était conducteur de camion, je crois, et dans les trains écossais, voilà. Et donc, il avait une sœur également, et tout petit, donc en fait, il est né, ils le disent d'ailleurs, les Rolling Stones, ils sont nés au milieu des bombes, hein, c'est en plein bombardement de la Luftwaffe. Voilà, et donc il va découvrir le jazz assez rapidement, et il va se mettre à la batterie, alors avec, je dirais, une sorte d'incident, puisque sa mère ou son père, je ne sais plus, va lui offrir un banjo, mais le banjo, très très vite, ça va l'ennuyer profondément, et en fait il va retirer le manche du banjo, et il va poser le banjo sur un tabouret, et il va s'en servir comme d'une caisse claire, comme d'un tome de batterie. Et en fait, c'est là que ça va commencer. Et en même temps, il va découvrir un batteur qui s'appelle Chico Hamilton, hein, qui est vraiment connu, parce qu'il a joué beaucoup avec Dick Katz. Et il va jouer comme ça en playback par-dessus les disques de Jerry Mulligan avec des brosses, voilà. Et en fait, c'est en 1955 que ses parents lui offrent une batterie, où il va commencer à jouer en écoutant les disques de jazz. Voilà. Ensuite, donc, il va faire ses études à la Harrow Art School, donc à l'université de Westminster, où il va sortir diplômé en 1960. D'ailleurs, il est à noter que les Rolling Stones, malgré leur réputation sulfureuse de mauvais garçons, ont tous fait des études, ils ont tous été diplômés, Mick Jagger aussi. Donc voilà. En gros, c'est un petit peu ce qui va être le début de Charlie Watts. Et puis, bon, après, il va, évidemment, l'histoire des Rolling Stones ne concerne pas Jazz Lib, bien que ça fait entièrement partie de notre notre inconscient collectif. Voilà. Alors, il a enregistré peu de disques dits de jazz, mais avec des très très bons musiciens. Et donc, ce soir, nous allons rendre hommage un peu, peut-être en vrac, écouter un certain nombre de disques, d'extraits de disques qu'il a fait, avec des très très bons musiciens, avec lequel d'ailleurs il est également resté fidèle. C'est-à-dire qu'il a, il avait avec lui le pianiste Brian Lemon, a priori tout le temps, le trompettiste Gérard Presenser, le saxophoniste évidemment magnifique, sublimissime Peter King, dans lequel nous avait rendu hommage il y a quelque temps justement, et puis également à la basse Dave Green, je crois. Voilà, donc nous allons commencer par écouter un thème qu'il a enregistré en public. Là, nous allons commencer avec le saxophoniste ténor Scott Hamilton. C'est extrait d'une émission qui s'appelle Jazz 625 en Angleterre, qui est assez célèbre et qui date depuis très très longtemps, depuis les années 50, et qui a reçu nombre de prestigieux musiciens. Et donc, il y a une petite présentation de la présentatrice de cette émission, et vous allez voir également Scott Hamilton qui présente le thème, et ensuite, c'est parti pour le jazz avec toute la discrétion et l'élégance de Charlie Watts, qui est resté toujours en retrait. Pour finir, il avait exactement comme Ringo Starr des Beatles, horreur de faire des solos de batterie, ce qui fait que quasiment on ne l'entend que en accompagnement, ce qui est, pour illustrer la phrase, un batteur discret mais efficace. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les choses. Voilà, c'est parti.
Just joyful, amazing improvisation there from the great bass player Ernie Shepherd. And now, in tribute to Duke Ellington, we've got something really special. Although we know him as the drummer in the world's biggest rock band, the Rolling Stones, Charlie Watts is in fact a jazz man to the core. So we've invited him to appear in a group with his lifelong friend Dave Green on bass and John Pierce on piano, alongside the excellent US saxophonist Scott Hamilton. It's over to Scott to introduce this next tune.
When we were trying to figure out a song to play with Charlie, Dave suggested a tune by Duke Ellington called Happy Go Lucky Local, and it's better known as Night Train, which became a huge hit and also the official song for strippers for many years. Anyway, we're going to try to play it. Happy Go Lucky Local or Night Train. Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Il s'agissait donc de Night Train de Duke Ellington, qui a aussi un autre nom. Et c'est donc une session qui a été enregistrée à l'émission de télé Jazz 625. Le 3 mai, peu importe, en 2019, en tout état de cause. Donc vous voyez, c'est relativement récent. Et il était accompagné pour l'occasion par Dave Green à la contrebasse, John Pierce au piano et Scott Hamilton au saxophone. Pour faire un mauvais jeu de mots, Scott Hamilton, voilà, il a Milton. Bref, donc, comme on le voit, comme on l'entend dans cette session, Charlie Watts reste complètement au service des autres musiciens. En fait, sa modestie, elle n'est pas uniquement une pause ni légendaire. Enfin, elle est légendaire, mais même au niveau des Rolling Stones, quand vous regardez toutes les interviews qu'on peut tout trouver sur la toile ou à la télé, à chaque fois qu'on lui pose des questions, il a l'air toujours d'être surpris du succès. Et puis, il a toujours, relativement refusé le côté rockstar, où on picole, on se drogue et on se fait des gonzesses. Enfin, voilà. Donc, c'était pas du tout... D'ailleurs, il s'est marié assez jeune. Il n'a jamais trompé sa femme, avec qui il a eu une fille. Il s'est marié d'ailleurs secrètement, c'est-à-dire qu'il n'a même pas prévenu ses petits copains des Rolling Stones. Voilà, il s'est marié donc le 14 octobre 1964 avec Shirley Ann Shepherd. Et voilà. Alors ça, c'est pour l'anecdote, c'est rigolo. Il a été nommé en 2006, je crois, élu l'homme le mieux habillé du monde. Voilà, c'est vrai qu'il était toujours très très élégant, costume trois pièces, cravate, chaussures de couleur. Donc voilà. C'était donc un homme très 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 curieux, avec cette double carrière tardive, en tout cas concernant le jazz, mais qui nous intéresse, parce que finalement, même si ce n'est pas le révolutionnaire du genre, ni même le plus grand batteur, je pense que tout le monde pourra l'accorder, mais je crois que c'est pas le propos en réalité. C'est quelqu'un qui était tellement amoureux de cette musique qu'il a réussi à passer sa timidité et ses appréhensions pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, je pense que je dirais son jeu, inspiré évidemment fortement du jazz et des grands batteurs de jazz, se ressent dans le travail des Rolling Stones. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui n'est pas de la même démonstration que, par exemple, tous les batteurs de rock. Je pense aux batteurs des Who, ce genre de choses, ou même plus spectaculairement le batteur des Pink Floyd ou même de Robert Wyatt, par exemple, à l'époque. Voilà, c'est quelqu'un qui, au contraire, complètement un jeu très, très resserré, très minimaliste, et finalement, qui permet aux solistes de s'exprimer. Alors là, nous allons l'écouter dans une autre session, qui un petit peu plus ancienne, qui date de... Je vais vous dire ça tout de suite, que je ne dise pas de bêtises, qui date de 1986, qui a été enregistré au Fulham Town Hall, et c'est un grand orchestre. Alors il y a beaucoup de monde. Il y a John Uckeridge, Colin Smith, Steve Sidwell, Harry Beckett, Tim Emmett, Dave DeFries, Jimmy DeShar aux trompettes, Paul Rutherford. Alors là, voilà, c'est déjà des musiciens qu'on connaît. Annie Whitehead, John Picard, Chris Pine au trombone, Peter King, le voilà, à l'alto, Ray Warlight, Willie Garnett à l'alto, au ténor, Courtney Pine, Danny Moss, Bobby Wellens, Don Weller, Evan Parker, Alan Skidmore. Hein, quand même, là, c'est vraiment le gratin du jazz anglais. Gail Thompson au baryton, Olaf Vass, clarinette et flûte, Stan Tracey au piano. Stan Tracey qui est vraiment, un des pionniers du jazz en Angleterre. Il y a cette merveilleuse session que je vous avais passée avec... ce duo de ténors, ça va me revenir. Bon, voilà. Bill Lesage également au piano, au vibraphone, Jim Lawless au vibraphone, Ron Mathewson et Dave Green à la contrebasse. Et on trouve également Jack Bruce au violoncelle. Jack Bruce qui était le bassiste des Cream, hein, notamment. Voilà, quand même. Qui lui aussi a beaucoup, beaucoup flirté avec le jazz, puisqu'il avait fait, il avait participé notamment à ce grand monument qui est Escalator Over the Hill de Carla Bley. Bill Hayden, Charlie Watts, John Stevens, il y a trois batteurs là, et Alan Cohen aux arrangements et chef d'orchestre. Et voilà, et donc on va les écouter, tous ces braves gens, dans un thème archi connu qui s'appelle Stomping at the Savoy. Voilà, et c'était donc en 1986. Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Vous avez évidemment tous, bien entendu, reconnu Stomping at the Savoy, hein, un tube absolument universel, en grand orchestre qui rend hommage donc au big band de cette époque, Duke Ellington et Count Basie, Woody Herman, etc., etc. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant lorsque on voit même les interviews de Keith Richards. Lorsqu'on lui demande que représentent les Rolling Stones, bon, ils sont très bien, très conscients que c'est le plus grand groupe de rock survivant sur cette planète. Et il dit, on rejoindra peut-être le Hall of Fame, c'est-à-dire le top du top des. Et il cite évidemment Duke Ellington et Count Basie, ce qui veut dire que beaucoup de ces musiciens ont toujours été influencé par le jazz, par le rhythm and blues. Hein. Je pense notamment au guitariste des Who qui aimait le jazz, qui aimait Charlie Christian, Wes Montgomery. Donc voilà, pour Charlie Watts, ça commence très tôt, puisque en fait, son voisin, c'était David Green, le contrebassiste qu'on entend. Et ils écoutent ensemble, ils vont écouter dans la chambre quand ils étaient gamins des 78 tours. David Green dit on allait dans la chambre de Charlie parce qu'il avait plus de disques que moi, et donc ils écoutaient ils écoutaient beaucoup de choses à cette époque, aussi bien Jelly Roll Morton, qui était vraiment le fondateur du ragtime, du jazz, hein, vraiment le tout début du 20e siècle, et puis Charlie Parker. Et voilà, et puis ils découvrent également Thelonious Monk, qui est encore une étape assez importante dans l'exploration du jazz. Et puis il y a un musicien qui est absolument fondamental en Angleterre, qui va embaucher beaucoup de musiciens qui vont devenir célèbres. Je pense à Jeff Beck, Eric Clapton, notamment Mick Taylor, qui va aussi travailler avec les Rolling Stones plus tard. C'est Alexis Corner. Alexis Corner forme un groupe qui s'appelle The Blues Incorporated. Et il va, Charlie Watts, travailler avec Alexis Corner. Et c'est cette période-là, dans tout début des années 60, il hésite, il part au Danemark pour travailler comme graphiste, et puis finalement, il accepte le travail d'Alexis Corner pour jouer, et c'est là qu'ils vont rencontrer Brian Jones et Ian Stewart, le sixième Rolling Stone, qu'on oublie toujours de citer, qui est le pianiste, évidemment. Et donc... Charlie Watts dit que lui, il aimait bien évidemment des musiciens comme Joe Jones, comme Art Blakey, j'ai déjà dit, mais quand avec Alexis Corner, il dit qu'en fait, il a été introduit au rhythm and blues, et quand on lui demandait ce qu'il devait jouer, il ne savait pas trop ce que c'était, il pensait que c'était du Charlie Parker au ralenti. Quoi. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc bon, voilà, après l'histoire des Rolling Stones, bon, vous la connaissez, je ne vais pas vous la raconter, puisque ça nous concerne assez moyennement. La seule chose qui est importante, c'est que à un moment de sa vie, quand même, il a, pendant 3 ans, un peu pété les plombs, comme on dit vulgairement. Il a failli perdre... il a failli divorcer de sa femme, lui-même perdre la vie. Enfin bon, donc... et puis, il s'est ressaisi. Et voilà, tout allait bien jusqu'à ce mois d'août fatal dernier où il nous a quittés à l'âge de 80 ans. On va continuer avec ce grand orchestre, parce que moi, j'aime bien les big bands. Ça devient de plus en plus rare. Là, il pouvait le faire parce qu'il avait, j'imagine, suffisamment d'argent et de notoriété pour pouvoir faire vivre un big band et l'enregistrer. Alors là, il s'agit évidemment d'un thème aussi archi-connu du saxophoniste ténor Lester Young, qui s'appelle Lester's Lipsin. Et ce sont toujours les mêmes, je ne vais pas vous les reciter tous, vous reporterez au podcast si vous avez envie, si vous pouvez. Voilà, c'est parti. Thank you.
Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4, vous êtes en direct, et ben voilà, hein, c'est, ça remue hein, quand même. C'est la face cachée du Rolling Stone, dont je pense beaucoup de fans ne sont pas forcément au courant. Alors, Charlie Watts était aussi impliqué dans d'autres activités en dehors des Rolling Stones, comme on peut l'entendre là. Mais il a également publié une bande dessinée en hommage à Charlie Parker qui s'appelait Une ode à un oiseau volant, à un oiseau qui vole haut. Voilà. Et puis il était aussi tout à fait passionné de boogie-woogie. D'ailleurs, il avait fait des concerts de boogie-woogie à Paris, notamment en trio ou avec deux pianos. Il disait, bon voilà, le boogie-woogie, c'est un peu répétitif, mais c'est très amusant à jouer. Donc je pense que c'est quelqu'un qui se contentait de faire ce qu'il aimait. Arrivé à un certain âge, il était assez libre de pas mal de choses. Alors, concernant, je dirais, sa relation avec le rock'n'roll, il avait cette espèce d'attitude d'amour-haine vis-à-vis des tournées. Je pense que c'était des tournées épuisantes. Et puis évidemment, une assez tragique, c'est le concert d'Altamont, qui est un peu la fin du rêve hippie, hein, avec cette espèce de violence qui était sous-jacente, mais qui s'est révélée à ce moment-là. Je pense que ça les a un petit peu, ça leur a modifié pas mal de choses aux Rolling Stones. Et en tout cas, Charlie Watts, lui, a continué à faire son petit bonhomme de chemin avec ses marottes. Et on va continuer donc avec ce grand orchestre, parce que moi j'aime bien, je trouve que ça envoie du bois, comme on dit vulgairement. Et on va écouter un morceau, je ne sais pas si on aura le temps de tout écouter comme d'habitude. Et là c'est pareil, c'est un standard qui a été immortalisé par Lionel Hampton, mais notamment dans l'orchestre de Benny Goodman. Comme vous le savez, Benny Goodman a été le premier à faire travailler des musiciens noirs américains, et ça lui a posé beaucoup de problèmes. Il a évidemment fait travailler Billie Holiday, avec laquelle les choses se sont mal passées, non pas à cause de Benny Goodman, au contraire, mais à cause du racisme des États-Unis, hein, vous connaissez le problème. Et donc Flying Home, puisque c'est le thème que nous allons écouter, a été un tube à l'époque, mais monstrueux, tout le monde dansait, enfin c'était et Lionel Hampton a été je dirais reconnaissant, comme beaucoup de musiciens qui sont passés par l'orchestre de Benny Goodman. Il y a trois orchestres qui sont une sorte d'école, on va dire, pour les jazzmen, puisque beaucoup de musiciens célèbres, de Stan Getz à Chick Corea, sont passés dans trois grands orchestres qui sont Stan Kenton. Beaucoup de musiciens de la West Coast ont été embauchés par Stan Kenton, notamment Art Pepper. Woody Herman, qui a évidemment eu des musiciens comme Serge Chaloff, Stan Getz, Herb Stewart, etc., etc., les frères Condoli, et puis Benny Goodman, avant eux, qui ont aussi engagé des musiciens qui deviendront très célèbres. C'est à l'époque, on n'avait pas la Berklee School of Music, et puis ici le Conservatoire National, mais on avait trois grands orchestres qui dans lesquels on faisait ses classes, et puis évidemment à côté, il y avait Count Basie Ellington, etc., etc. Mais Basie Ellington, eux, renouvelaient très peu leurs musiciens, parce qu'ils préféraient les garder de manière à ce qu'ils ne soient pas débauchés ailleurs. Voilà. Donc on va écouter la version en grand orchestre, et je vous redonnerai le nom des musiciens à la fin, de ce tube de Lionel Hampton, Flying Home. Voilà, c'est parti, j'espère. Jazz Lib, Radio Libertaire 89.4. Voilà donc Flying Home en grand orchestre. Alors je vous rappelle les musiciens parce qu'il y en a une flopée comme on dit. Il s'agissait donc en public au Fulham Town Hall de 86 avec donc John Huckeridge, Colin Smith, Steve Sidwell, Harry Beckett, Ted Emmett, Dave DeFries, Jimmy Duchar, aux trompettes, Paul Rutherford, Annie Whitehead, John Pica, Chris Pine, au trombone, le magnifique Peter King, Ray Warley, Willie Garnett, au alto, Courtney Pine, Danny Moss, Bobby Wellins, Don Weller, Evan Parker, Alan Skidmore, au ténor, Gail Thompson, au baryton, Olaf Vass, clarinette, flûte, Stan Tracey, au piano, Bill Lossage, piano vibraphone, Jim Lawless, vibraphone, Ron Mathewson, Dave Green à la contrebasse, Jack Bruce au violoncelle, Bill Hayden, Charlie Watts, John Stevens aux batteries et Alan Cohen au chef d'orchestre. Voilà. Donc ce sont des disques que l'on trouve. Alors il y en a un, donc je vais vous passer deux ou trois extraits qui lui est très très difficile à trouver. Mais en attendant, nous allons faire un petit détour par l'hommage que Charlie Watts avait fait à Charlie Parker dans son quintet. Il s'agit d'un album qui a été enregistré au Ronnie Scott de Londres, qui est évidemment un club aussi célèbre que le Village Vanguard, parce que Ronnie Scott, c'est un saxophoniste ténor qui a eu une carrière assez bien, assez bonne, et puis qui a ouvert ce club de jazz assez chic, assez select, très prisé, et dans lequel il faut réserver ses places à l'avance. J'ai jamais réussi. Bref. Et donc ça a été enregistré le 1er novembre 91, ah, voilà, c'était mon anniversaire, et le 31 octobre de la même année. Et il est en compagnie de Peter King, évidemment, à l'alto, magnifique saxophoniste qui nous a quittés bêtement récemment. Gérard Presenser à la trompette, Brian Lemon au piano, David Green à la contrebasse, donc le voisin d'enfance de Charlie Watts. Hein, on voit quand même qu'il est extrêmement fidèle dans ses amitiés. Et donc Charlie à la batterie et un chanteur qui s'appelle Bernard Fowler. Alors là, Bernard Fowler, on va l'écouter dans un autre disque qu'il avait fait, Charlie Watts, qui s'appelle Long Ago et Far Away, qui date de 97. Mais là, Bernard Fowler, en fait, est le narrateur d'une petite histoire sur Charlie Parker. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, c'est comme Radio Libertaire, je vous explique entre chaque morceau deux, trois anecdotes. Et donc là, le premier set est un hommage donc à Parker avec beaucoup de compositions de Peter King, et puis le deuxième set est un hommage à Charlie Parker mais avec des violons. Donc nous l'écouterons tout à l'heure. Donc donc il est narrateur. Donc on va se passer de la narration pour l'instant parce que ça nous voilà, comme tout le monde n'est pas anglophone au niveau des auditeurs, nous passerons. Mais c'est un disque que je vous recommande. Alors il a été sorti sous plusieurs formats, il a été sorti en deux fois. Une première fois, c'était celui-ci, une face, et puis ensuite une deuxième fois avec les cordes, et puis finalement il a été rassemblé sur un autre album. Enfin bon, voilà, c'était un peu le micmac. Mais je vous recommande évidemment l'écoute de ce disque parce qu'il est vraiment fortement intéressant. D'abord parce qu'il y a Peter King et puis c'est un très très bel hommage. Voilà, nous allons écouter un premier morceau de Charlie Parker qui s'appelle Bluebird, si tout va bien.
Just did not try to understand it. Poor Charlie Bluebird. It was for sure Charlie flew too high for most of them. Thank you.
Jazz Lib, Radio Libertaire, donc c'est l'hommage de Charlie Watts en quintette à Charlie Parker, qui est un excellent disque, je vous recommande. Encore une fois, on entend là Charlie Watts qui ne prend pas de solo, qui accompagne, c'est pas forcément le jeu qu'on peut... Comment dire, voilà, c'est pas transcendant au niveau du jeu de batterie, mais voilà, il reste au service de la musique et de ses musiciens. Et finalement, je pense que lui-même connaissait ses limites. Et c'est toujours très bien qu'on connaît ses limites. Ça permet de pouvoir les dépasser à certains moments, ce qui est plutôt une bonne chose. On va l'écouter maintenant dans un autre thème de Charlie Parker, toujours dans cette même session enregistrée au Ronnie Scott, sur un thème de Charlie Parker qui s'appelle Relaxing at Camarillo. Alors, relaxing, hein, c'est pas relax dans une chaise longue, hein, c'est... c'est être relâché de la prison de Camarillo. Voilà, parce que Charlie Parker, hein, bon, on avait fait une émission spéciale sur lui. Voilà, on connaît tout de lui et de ses difficultés. Voilà.
Bird became ill many times through his bad and fateful habit, though somehow he'd managed to come back whistling better than ever.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Alors là, nous allons maintenant écouter le second set que j'avais soigneusement omis de vous passer la fois où nous avons rendu hommage à Peter King. Alors, c'est une histoire tout à fait particulière, ce second set. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait référence au disque de Charlie Parker, en public, avec des cordes. Il faut vous rappeler cette histoire que Charlie Parker avait dit qu'il savait jouer de tout, dans toutes les tonalités, et qu'il lui manquait un certain nombre de choses, notamment d'écrire pour grand orchestre. Beaucoup de jazzmen ont été... un peu omnubilé par l'idée de la musique classique et d'être accompagné par des cordes. Il y avait quelque chose de prestigieux dans cette affaire d'être accompagné par un orchestre à cordes. Et notamment, lors des dernières émissions sur le Modern Jazz Quartet, sur le vibraphone, où John Lewis était très, très influencé par Jean-Sébastien Bach, par ce genre de choses, ou Bill Evans, par Chopin. Voilà, donc il y a toujours une espèce de d'imprégnation d'un certain nombre de choses. Et donc Charlie Parker avait été voir Edgar Varèse en lui disant « Je sais tout, sauf apprends-moi à écrire pour cordes ». Et puis Varèse lui a dit « Ok, pas de souci ». Et puis Charlie Parker est mort, donc ça n'a pas pu se faire. Mais il a quand même, Charlie Parker, réussi à faire ce fantasme. C'est le fameux disque Charlie Parker with strings, c'est-à-dire avec des cordes, enregistré en public à Carnegie Hall, je crois, dont la qualité de son est assez médiocre, mais qui a été un événement. Alors, c'est pas mon disque préféré de Charlie Parker, mais on l'avait passé lors de mes hommages à Parker. Mais il reste un témoignage intéressant de ce que Parker pouvait produire sur scène. Donc, comme on a peu de matière visuelle, il y a très peu de films. Je crois qu'il y en a deux, simplement, où on le voit jouer. Et encore une avec un son rajouté dessus qui pas très très raccord, mais donc c'était intéressant. Et donc là, Charlie Watts et Peter King rendent hommage non seulement à Charlie Parker, mais également, je dirais, à cet album particulier de Parker avec des cordes. Alors il y a quelques thèmes de Charlie Parker, mais beaucoup de standards, comme celui que nous avons écouté en premier, qui est Just Friends, mais beaucoup de, comme Dancing in the Dark, etc., etc., dont, voilà. Et que voulais-je dire ? Oui, il est donc accompagné pour l'occasion avec, donc, je rappelle, hein, Peter King, qui est à l'alto, et qui est le directeur musical de cette session, Gérard Présenceur à la trompette, excellent trompettiste, Brian Lemon au piano, David Green à la contrebasse aussi, qui ne se laisse pas non plus faire, hein. Charlie Watts évidemment, Bernard Foller, qu'on a entendu un petit peu là, sur la narration, et puis qui chante sur Loverman, si nous avons le temps. Et il est accompagné donc la section de cordes par Jim Davis, Arnold Goodger, Andrew Hughes, Adrian Stenz au violon, violon alto Nicolas Ackroyd, je crois, pardonnez-moi, et violoncelle Sylvia Knudsen, à la harpe Robert Johnson et au hautbois Julie Robinson. Et donc nous allons commencer par un thème de Sam Lewis et John Klenner qui s'appelle Just Friends. Voilà, c'est parti pour cette session très particulière.
It was an amazing group led by, on the drums, Charlie Watts. And we'd like a big hand for Charlie Watts. And the orchestra.
One, two, three. Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Donc voilà, vous avez eu un peu plus de 20 minutes de musique sur ce second set d'hommage à Charlie Parker par le Charlie Watts Quintet avec, je les recite, Peter King à l'alto, magnifique, Gérard Présenceur à la trompette, néanmoins pas mal, Brian Lemon au piano, David Green à la contrebasse, Charlie Watts évidemment à la batterie, au violon Jim Davis, Arnold Goodger, Andrew Hughes, Adrian Staines à alto Nicolas Ackroyd, au violoncelle Sylvia Knussen, à l'harpe Robert Johnson et au bois Julie Robinson. Voilà, et vous avez écouté dans l'ordre. En premier, Just Friends de Sam Lewis et John Klenner, évidemment archi connu. Ensuite, le Cool Blues, évidemment, de Charlie Parker lui-même. Et puis, le tube Dancing in the Dark, chanté par Sinatra et compagnie, de Arthur Schwartz et Howard Hitz, évidemment, encore une des duettistes pourvoyeurs de tubes. Ensuite, Dewey Square de Charlie Parker et enfin le Rocker de Jerry Mulligan, le baryton. C'est un morceau qu'on retrouve dans l'album The Birth of the Cool du Nonette de Miles Davis de 1949, dont Jerry Mulligan a composé et fait les arrangements. Je vous en avais déjà parlé lorsque nous avions parlé à la fois de Miles Davis et puis de mes émissions sur la West Coast, puisque Rocker, je voulais passer le Rocker parce qu'évidemment pour Charlie Watts, ça tombait bien, voilà, c'est un jeu de mots assez lamentable, mais peu importe. Mais en tout état de cause, ce thème de Jerry Mulligan et cet avènement du Birth of the Cool va donner deux directions bien distinctes du jazz à partir du tout début des années 50. Miles avait évidemment beaucoup regretté de ne pas pouvoir pu faire tourner en public ce groupe absolument magnifique avec Lee Konitz, John Lewis et notamment, et bon voilà. Donc là, nous allons continuer notre exploration d'un certain nombre de disques de Charlie Watts. Hein. Vous voyez que c'est un hommage sincère, c'est un musicien discret, c'est un musicien modeste qui a une longévité qu'on aurait préféré encore plus longue, notamment qu'il puisse fêter les 60 ans avec les Rolling Stones. Mais bon, voilà, ce qui nous intéresse, c'est l'autre face de la médaille, la face jazz, celle qui était son jardin secret, mais qui nous, évidemment, à Jazz Libre, nous intéresse au plus haut point. Alors là, nous allons l'écouter dans un disque rare. Alors, si vous avez arrivé à le trouver, bah, je vous conseille d'approvisionner votre carte bleue parce qu'il est monstrueusement hors de prix. On se demande pourquoi. Enfin voilà. Bref, c'est un album qui s'appelle Charlie Watts Tentête, qui a été enregistré en 2004, toujours avec Dave Green à la contrebasse, percussion Louis Hardim, piano Brian Lemon, toujours lui. Au saxo Peter King et Ivan Parker, au baryton Julian Argoles, au trombone Mark Nightingale, aux trompettes et aux bugles Henry Lowther, aux trompettes et aux bugles et au piano électrique curieusement Gérard Présenceur, et au vibraphone Anthony Kerr. Et nous allons les écouter là dans un thème de Duke Ellington évidemment, qui s'appelle Take the Train, qui on ne peut pas faire plus connu. Voilà. Je vous laisse en compagnie de ce tentête qui est devenu un collector. Thank you.
and the quintet.
Jazz Libre, Radio Liberté, voilà, le temps file comme le train de Duke Ellington à toute vitesse. Donc, nous allons continuer avec son dernier album. Comme le temps passe, je verrai si je peux vous passer d'autres choses à la suite. Mais je voudrais, comment dirais-je, vous passer, oui, de son dernier album, parce qu'il y a un certain nombre de titres que je trouve fort intéressants. Notamment un hommage en deux parties au batteur Elvin Jones, donc c'est la suite Elvin Jones. C'est un album qui est sorti en 2017 seulement, mais qui avait été enregistré en 2010, et qui s'intitule Charlie Watts meets the Danish Radio Big Band, c'est-à-dire le Big Band de la radio danoise, qui est un excellent Big Band, comme la plupart des Big Bands des radios des pays, des capitales des pays européens. Et donc, c'est en grand orchestre, le son est bon, tout à fait intéressant au niveau des arrangements. Il y a quelque chose qui est évidemment dans l'esprit de Gil Evans. Je crois que Gil Evans est une borne incontournable dans l'arrangement moderne. Et puis, bon, par la suite, évidemment, quelqu'un comme Maria Schneider qui va encore pousser, ou Vince Mendoza, qui vont continuer à aller plus loin. Donc, on est un peu dans cet esprit-là. Et donc, je trouve tout à fait intéressant que Charlie Watts avait poussé lui aussi son désir d'aller vers ce type de musique. C'est tout à fait pas uniquement rendre hommage au standard et aller plus loin. Donc je trouvais que c'était une démarche intéressante. Voilà. Donc nous allons l'écouter dans. J'espère que tout va bien se passer et que nous allons pouvoir profiter de ce grand orchestre dont je vous désannoncerai les musiciens, parce qu'il y en a beaucoup, et donc nous verrons ça tout à l'heure. Voilà, ça va être parti dans un instant. Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Donc il s'agissait du dernier disque de jazz de Charlie Watts en compagnie du grand orchestre de la radio danoise, absolument magnifique. Et donc il s'agissait de la première partie d'une suite qui s'appelle Elvin Suite, évidemment en hommage à Elvin Jones. Que dire, si ce n'est que c'est tout à fait magnifique. Là, vraiment, je pense que Charlie Watts aurait pu continuer dans cette voie encore longtemps et on lui en aurait pas voulu du tout. Nous allons continuer alors avec un titre que là vous allez reconnaître évidemment parce que je ne vais pas vous le citer et en plus. C'est très, très, très intelligemment fait. C'est toujours avec le grand orchestre de la radio danoise. Et franchement, c'est... écoutez, je vous laisse découvrir par vous-même. C'est vraiment très, très bien et c'est très, très réussi. Et vous m'en direz des nouvelles.
Thank you.
Jazz Libre, Radio Libertaire, 89.4. Bon, vous avez tous reconnu évidemment le Paint in Black des Rolling Stones, qui ne reprend pas le côté psychédélique de la chanson originale, mais qui en fait quelque chose de tout à fait intéressant. Évidemment, musique que je qualifie toujours d'horizontale, hein, vous savez, vous connaissez ma marotte, je considère la musique soit verticale, soit horizontale, là, donc on est plutôt sur l'horizontale avec des harmonies très larges qui permettent de s'exprimer, d'avoir des nappes sonores. Voilà, je trouve que c'est bien dommage qu'il n'ait pas pu continuer dans cette direction. Et puisque nous sommes toujours, je dirais, dans l'évocation des Rolling Stones, qui finalement, je dirais, ne pouvait pas ne pas lui coller au basque d'une certaine manière, eh bien, voici un autre pour vous, issu de cet album, et puis vous. Voilà, je voulais vraiment insister un petit peu sur ce grand orchestre de la radio danoise. Reportez-vous à ma page Facebook lorsque je mettrai les informations. C'est un disque vraiment très très bon qui mérite une place comme n'importe quel autre disque de jazz dans votre discothèque. Voilà, Charlie Watts n'avait pas à rougir de ses choix, de ses derniers choix et même de ses précédents. Voilà, c'est notre hommage à Jazz Libre, à ce musicien d'exception d'une certaine manière, même si c'est pas le plus grand virtuose, si ce n'a pas été le plus grand virtuose, il n'en reste que c'est un musicien et puis c'est tout. Donc là, c'est pareil, je ne vous passe pas le titre, vous allez évidemment le reconnaître immédiatement.
De passer sous silence des événements délicats.
Libre, Radio Libertaire. Donc, il y avait dans cet orchestre de la radio danoise Gérard Présentseur à la trompette, aux percussions Soren Frost, Lars Sibrun, saxophone Nikolai Schulz, Pernil Brevorts, Ulf Markussen, Lars Moller, Pell Friedel, au trombone Vincent Nilsson, Stine Nikolai Janssen, Peter Jensen, Ingerid Annette Usby Sax, pour une tromboniste, c'est curieux de s'appeler Sax, Jacob Munk, Anders Gustafsson à la trompette également, Christer Gustafsson, je pense que c'était de la même famille, Thomas Kjærgaard, Mads Lacour Langlund, tout ça c'est des trompettistes, au clavier Stine Rasmussen, et à la guitare basse Kasper Wadsholt, je ne sais pas, guitare Pergad, évidemment à la contrebasse David Green et Charlie Watts à la batterie. Voilà, c'est un disque qui date de 2017, mais qui a été enregistré en 2010. Et donc nous allons terminer sur un autre album de Charlie Watts, plus sentimental, plus romantique, plus consensuel, avec le chanteur... excusez-moi, Bernard Fowler. Donc on retrouve les mêmes musiciens, David Green à la basse, Charlie Watts, divin, Gérard Présentseur, Peter King à l'alto, et aux percussions Louis Hardim. Voilà, et donc nous allons écouter un thème qui a été immortalisé par Frank Sinatra, et qui a été également repris par Kurt Elling, dont les arrangements de Kurt Elling, curieusement, ressemblent beaucoup à ceux de Charlie Watts, dans cet album de 97 qui s'appelle Long Ago et Far Away. Et le thème s'appelle All or Nothing at All, évidemment que vous connaissez tous, je suppose. Voilà, c'est parti.
Undertow. So see. I've got to say no, no, all or nothing at all. My cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand make me weak. And my heart may grow dizzy and fall. And if I fall under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all or nothing at all.
Jazz Libre, Radio Liberté, 89.4. Donc il s'agit de l'album Long Away, Far Away, Long Ago et Far Away de 97 de Charlie Watts, toujours avec les mêmes musiciens, donc fidélité non seulement Rolling Stone, mais également à son voisin d'en face, David Green à la contrebasse, Peter King à l'alto, et puis il y a également le London Metropolitan Orchestra, donc voilà, Charlie Watts pouvait se permettre de prendre les plus grands musiciens disponibles à ce moment-là, et Bernard Fowler au chant qu'il a aussi accompagné, notamment dans cet hommage à Charlie Parker dont je vous ai passé tout à l'heure quelques extraits assez abondants. Voilà, pour finir, en 2006, il a été classé au magazine des batteurs modernes au même titre que Ringo, Kef Moon, Steve Gadd, Buddy Rich, etc., dans les meilleurs batteurs de rock et de jazz de tous les temps. Voilà, donc c'était notre hommage à Charlie Watts, la face jazz de ce rocker, le plus jazzeux des rockers, le plus rocker des jazzeux, peu importe. On continue donc avec un thème, j'espère qu'on aura le temps de l'écouter en entier, qui est un thème connu évidemment, qui s'appelle Never Let Me Go. Voilà, c'est un thème tout à fait choisi pour rendre hommage à ce batteur qui n'aura pas finalement pu fêter les 60 ans de carrière avec les Rolling Stones. C'est parti.
Let me go. Love me much too much. If you let me go, life would lose its touch. What would I be without you? There's no place for me without you. Never let me go. I'd be so lost if there'd be a thousand hours
one caress, my world was overturned. At the very start, all my bridges burned. By my flaming heart, you'll never leave me, would you? Let me go, never let me go.
Radio Libertaire 89.4. Bon, voilà, nous allons donc terminer sur ce même album plus sentimental, plus romantique, puisqu'il prend évidemment beaucoup de standards. Nous allons terminer sur un standard de Duke Ellington, archi connu, qui s'appelle In a Sentimental Mood. Voilà, donc ça confirme ce que je vous disais. Rendez-vous donc dans, avant de laisser la place à Epsilonia à 22h, pour rendez-vous dans 15 jours où nous finirons le tout dernier petit bout de volet consacré au vibraphone, parce que je n'ai pas eu le temps de vous passer le vibraphone dans son état moderne, enfin le plus récent en tout cas. J'avais encore d'autres choses à vous présenter, et puis nous allons nous attaquer au faire un bilan sur toutes les rééditions de ce qui vient de ressortir de Bill Evans, des concerts inédits faits par Zeffelmann pour le label Résonance, Zeffelmann qui parcourt le monde et qui maintenant est chez Blue Note, et je vous en reparlerai puisqu'il y a un coffret qui vient de sortir absolument somptueux du trompettiste dont ça y est j'ai oublié le nom, voilà je m'égare, c'est la vieillesse, veuillez me pardonner, mais nous verrons tous, débroussaillerons tout ce travail. Voilà, rendez-vous dans 15 jours pour toutes ces nouveautés. Nous allons faire le point sur toutes ces rééditions absolument somptueuses, d'autres qui sont un peu plus oubliables au niveau de la qualité de son, mais bref, rendez-vous dans 15 jours, Fraterni Swing, et puis essayons que le fascisme ne passe pas. Ça, c'est une autre histoire. C'est à bientôt, parti.
In a sentimental mood, yeah, I can see the stars come through my. While your loving attitude is like a flame that lights the gloom. On the wings of every kiss drifts a melody so strange and sweet. In the sentimental bliss you make my paradise complete. Rose petals seem to fall, it's all I can dream to call you mine.
night a thing divine. In the sentimental mood, yeah, I'm within a world so heavenly. For I never dreamt that you'd be loving sin. Since you made this night a thing divine.